Bonjour, shalom, salam alaikum, hello alay, le mané à Tichet. Nous sommes le jeudi 2 mars 2023 et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le club La Presse sur Canal FM à Lomé et sur ses environs, mais également sur les antennes des médias partenaires Radio Lumière à Nero, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio La Paix, la voix des plateaux à Atakpamé, Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, Radio Daoula Bassa, Courtoisia Dapon, mais également dans le monde entier, tous ces canaux et autres médias numériques qui nous relaient auprès de vous. L'émission est réalisée par le duo Vitogwe Koku Michel, Tomega et Jérôme Dakucha. Autour de moi, trois confrères et une personne ressource, Michel Sarakawabalo Tchadja, le Tchadja du Club de La Presse. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à ma gloire et l'homme qui veut s'installer un instant.
Et l'homme qui vient d'arriver, effectivement.
Bonjour à notre invité, puis surtout bonjour à Canal FM.
Merci Michel, et l'homme qui va ajuster son siège pour être au bon niveau du micro avant que je lui passe la parole. Le temps que Magloire Teko Kenvi nous salue. Bonjour Magloire.
Bonjour à toi Sas Gaou, bonjour à Michel, bonjour à Elom, bonjour à nos amis derrière la belle vitrée, tout simplement bonjour Canal FM.
Merci, et puis Kossi Elom Atichogbe de la Nouvelle Tribune, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour confrères. Bonjour à Roms Design depuis Totti. Je ne sais pas si c'est lui qui vous a cousu ce très bel habit, mais bon, en tout cas, c'est très joli.
C'est bien, mais j'aimerais entendre ça de la bouche d'une femme. Eh bien, notre invité, tel que les deux confrères l'ont trahi, nous sommes honorés par la présence dans ce studio de Madame Massa Maesso Assi, la ministre en charge de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel, qui nous fait l'honneur de nous rendre visite. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Sas, bonjour Magloire, bonjour le Tchodjo, et bonjour Conseiller Lom.
Merci, eh bien vous êtes en bonne forme, n'est-ce pas?
Presque aussi en bonne forme que votre tenue du jour.
Merci, je préfère ce que vous avez dit à Elom. Eh bien Madame Assi, ministre en charge de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel, qui nous parle aujourd'hui de l'inclusion financière au Togo. Nous nous rappelons que en Conseil des ministres le 18 janvier dernier, l'inclusion financière avait fait l'objet d'une communication que Madame la ministre Massa Maesso Assi avait délivrée. Le Togo qui avait été qualifié de champion en inclusion financière dans la zone UMOA. Quelle en est la réalité de cette inclusion financière au Togo? Quels sont les défis et les perspectives? En quoi est-ce que l'inclusion financière impacte et la vie des individus, des personnes, des très petites et moyennes entreprises, la vie nationale? Voilà la présence, l'objet de la présence de Madame Assi avec nous. Et puis, après ce développement, nous allons aborder quelques questions d'ordre économique, notamment le port autonome de Lomé, qui semble avoir le vent en poupe, pendant que le Togo vient de perdre une icône de la matière financière, Ignace Klomenga, qui nous a quittés, et quelques sujets de proximité. Voilà le menu du Club La Presse, juste le temps que nous découvrions la pensée du jour, qui nous enseigne que la partie la plus pesante de notre identité s'appuie sur ce que les autres savent de nous. Encore une fois, la partie la plus pesante de notre identité s'appuie sur ce que les autres savent de nous. Et vous savez également, sur le coup de midi, vous allez entrer en ligne sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 91 36 63 75 pour émettre vos avis en toute liberté sur les questions que nous aurons développées et poser des questions, pourquoi pas, à Madame la Ministre ou bien aux confrères. Mais je voudrais juste commencer cette émission par cette information qui nous arrive de la Cour suprême. Nous nous rappelons, Magloire, Teko et Michel, que en début d'année, hein, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, la HAC, avait infligé une sanction de 3 mois de suspension à l'endroit de 2 confrères, le quotidien Liberté et l'hebdomadaire Tampa Express. Eh bien, ces 2 confrères qui n'ont pas apprécié la sanction de la HAC ont interjeté appel devant la Cour suprême. Laquelle Cour suprême vient de siéger ce matin même. Et les décisions, la sanction de 3 mois de suspension est confirmée contre l'hebdomadaire Tampa Express, alors que cette sanction de suspension de 3 mois vient d'être levée contre le quotidien Liberté. Donc la Cour suprême a siégé ce matin, la sanction de suspension de 3 mois est confirmée contre Tampa Express, alors que cette sanction est levée contre Liberté. Michel, encore une fois, la preuve que nous avons mis en place des institutions en cas d'incompréhension. Mettons chaque institution devant ses responsabilités, éprouvons-les et nous verrons ce que l'une ou l'autre nous servira.
Ah, j'espère que ce que la Cour suprême vient de sortir comme décision sera accepté par tous. Parce que, comme tu l'as dit, les institutions de la République, nous pensons que elles doivent travailler comme cela se doit. Elles doivent être indépendantes. Et le peuple tout entier doit faire confiance à ces institutions-là. Parce que il n'y a pas très longtemps, vous avez vu une institution de la République qui a sorti un rapport, je ne vais pas revenir, mais vous avez vu comment ça s'est passé.
Mais tu reviens quand même.
Oui, vous avez vu comment tout le monde est allé de son côté par rapport à ce rapport-là. Et je ne doute pas que ce que vient de... le verdict que vient de donner la Cour suprême puisse être, en tout cas, accepté, parce que qui connaît le magistrat Abdoulaye Yaya sait de quelle personne il s'agit. Et si aujourd'hui cette décision est vraiment sortie, nous allons dire bravo donc à cette institution. Malheureusement pour nous que l'ascenseur n'a pas été levé pour tous les confrères qui ont interjeté appel. On aurait voulu que Tampa Express aussi soit, l'ascension soit levée. Mais dans tous les cas, nous c'est une petite victoire aussi pour la presse et nous devons continuer à faire confiance à cette institution.
Merci. Donc, information exceptionnelle, Club de la presse. La Cour suprême vient de siéger sur saisine des 2 confrères. Laquelle Cour suprême confirme malheureusement la sanction de 3 mois de suspension contre Tampa Express et la Cour suprême qui vient de lever la suspension contre Liberté. Je rappelle juste que les décisions de la Cour suprême sont sans appel, elles sont exécutoires. C'est pourquoi, en votre nom, nous félicitons Liberté, hein, et nous souhaitons beaucoup de courage à Tampa Express. 3 mois, c'est long, mais ça va passer bientôt, n'est-ce pas, Magloire?
Oui, ça va passer bientôt. Mais ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que c'est la presse qui gagne, on va le dire ainsi. C'est vrai qu'on peut pas se réjouir que la sanction contre le confrère Tampa Express n'ait pu être levée, mais qu'à cela ne tienne, on retient tout simplement ce qui vient d'être fait au niveau de Liberté. Et je crois qu'on l'avait dit lorsque le sujet s'était posé. Parce que quand à l'époque, je me rappelle que Liberté, peut-être se rendant compte de ce qu'il a fait, a présenté son mea culpa. Et nous l'avions dit ici que la moralité voudrait qu'on s'arrête là. Mais qu'à cela ne tienne, on a poursuivi jusqu'à ce que la justice ne décide et la HAC a appliqué la décision. Sauf que derrière, après avoir interjeté appel, eh bien la Cour d'appel, la Cour suprême, autant pour moi, vient de situer tout le monde. Maintenant, la grande victoire dans cette histoire, à mon humble avis, c'est que nous, citoyens, souvent, On a les outils nécessaires pour nous rendre justice, mais on ne le sait pas, l'ignore.
Tu as tout dit.
Voilà, on l'ignore, alors qu'en réalité, les institutions de la République sont là, il y a plusieurs ouvertures. Si on se sent lésé dans une approche donnée, on a l'attitude, n'est-ce pas, d'interjeter appel, et à la suite, on peut être gracié, ou du moins, on peut se faire justice, ou enfin... lorsque la justice sera rendue, ça peut être favorable à nous ou non. Mais l'essentiel est que ne soyons pas passifs. Devant toute situation, agissons. Et Liberté vient encore de nous donner le bon exemple et c'est de bonne guerre.
Merci. Nous avons des arsenaux juridiques à notre disposition. Sachons, connaissons les textes qui règlent le Togo. Et en cas d'incompréhension, éprouvons les institutions... saisition qui est celle-ci ou celle-là, et nous verrons si la décision nous sera favorable ou défavorable. C'est la vie. Et l'homme ?
Non, je crois que Magloire a résumé la situation. D'abord, c'est une bonne nouvelle pour Liberté qui va devoir reprendre ses parutions. Malheureusement, Tampa Express ne va pas de sitôt reprendre ses parutions. Je crois quand même qu'à un moment donné, je l'ai toujours dit sur ce plateau, il faut faire confiance aux institutions de la République. Il faut que le citoyen ait la culture de la plainte.
Oui.
D'accord. Aujourd'hui, les Togolais se sentent lésés. Ils viennent nous voir. Monsieur le journaliste, on a fait ceci, mais déposez plainte, portez plainte. La justice est là pour nous tous. Elle est une et universelle. Si un citoyen sent que ses droits sont brimés par X ou Y, la justice est là. Déposez une plainte. Il y a trois niveaux de recours. La première instance, la cour d'appel et la cour suprême. Si en première instance vous n'êtes pas satisfait, allez à la cour d'appel. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, allez à la cour suprême. Et donc, c'est la décision de la cour suprême qui s'applique au final. Donc, il faut que les citoyens, autant que nous sommes, nous faisions confiance aux institutions de la République, surtout à la justice. Parce que la justice dans un pays, c'est le dernier rempart. Quand vous vous sentez brimé, lésé, c'est la justice qui est le dernier rempart. Et tant que vous-même, vous avez raison, et vous pensez que la justice ne fait pas bien son travail ou n'est pas professionnelle, si vous déposez plainte, vous portez plainte, vous-même, vous vous résignez. C'est-à-dire que vous dites que je n'aurai jamais satisfaction. C'est mental, c'est dans la tête, ça ne se passe pas comme ça. Faisons confiance encore une fois. Félicitations à Liberté.
Merci.
Et
là,
félicitations également à la Cour suprême par rapport au travail qu'elle est en train d'avoir.
Les leçons qu'on peut en tirer, féliciter Liberté et Tampa Express d'avoir saisi la Cour suprême. Pour rappel, félicitations ou bien merci à la Cour suprême qui a reçu la plainte des deux organes, qui a mis sur pied une composition, qui a tranché ce matin. La décision, elle est très favorable à Liberté. Nous nous associons au bonheur de Liberté, mais nous souhaitons beaucoup de courage encore une fois à Tampa Express. 3 mois, c'est long, mais ça va passer bientôt. Michel, oui, une dernière précision
aussi, cette décision de la Cour suprême, je pense, c'est un message fort lancé à toute la justice, elle-même, toute la justice togolaise. Parce que les concitoyens, la plupart que vous croisez, ne sont pas, en tout cas, ne portent pas la justice togolaise dans leur cœur. Parce que par rapport à certaines situations, les gens se sentent lésés parce qu'il y a plus fort que. Et aujourd'hui, ce que vient de poser comme acte la Cour suprême, je pense que c'est un signal très fort. Tu n'as fait que relever le fait qu'on a levé la sanction des 3 mois, en tout cas la suspension des 3 mois.
Contre
nous allons,
Liberté.
C'est à nous d'aller chercher, voir toute, en tout cas, la décision de la Cour, voir si la Liberté sera dédommagée. Parce que le temps que les journalistes et la rédaction est resté à la maison,
merci,
on ne sait pas on ne peut pas imaginer le coût, disons,
le
préjudice causé à la rédaction et à tous les personnes de Liberté. Donc nous allons
Approcher les confrères Liberté et Tampa, pourquoi pas leur conseil pour savoir ce qu'il faut en tirer. Mais nous avons l'honneur d'avoir à notre plateau Madame la ministre Assi qui souhaite réagir. Oui, madame.
Oui, merci Sass. En fait, ce que je voudrais juste faire comme complément, au vu de tout ce que vous avez dit, et au vu de ce que l'actualité aujourd'hui, on voit un peu sur les réseaux, les discussions entre médias et les Togolais, Je voudrais déjà féliciter les Togolais pour l'intérêt qu'ils portent à la vie de la gestion publique. Mais également aussi rappeler que nous sommes une jeune démocratie en construction depuis des années. Et comme vous l'avez dit, on a des institutions de la République. Ce type de décision, et comme vous l'avez évoqué, les rapports, ça montre en fait l'autonomie et l'indépendance des institutions et le bon fonctionnement et la gouvernance que nous voulons insuffler dans ce pays. Donc je me réjouis que, effectivement, ce type de décision démontre à tout Togolais, comme vous l'avez dit, qu'il a la capacité d'user de tout l'arsenal, que ce soit législatif, réglementaire, qui est mis en place par la plus haute autorité dans notre pays, et également de démontrer une fois de plus que le Togo est une démocratie qui se construit et qui est en apprentissage de jour en jour. Et ça, c'est des choses que les Togolais doivent savoir. Vous l'avez dit, les organes sont là pour fonctionner, mais il faut que le peuple et il faut que les populations et les individus puissent contribuer au fonctionnement de ces organismes et de ces institutions en les approchant, en écoutant les bonnes informations, en allant à la recherche d'informations et de voir que les institutions sont là. Je rappelle que les institutions sont dirigées par le Togolais, par des Togolais.
Et des Togolaises.
Et des Togolaises. L'État togolais est dirigé par un Togolais et aussi une équipe de Togolais. Donc on a tout intérêt pour le bon fonctionnement de notre démocratie et le bien-être de nos populations à faire fonctionner ces institutions et à contribuer tous ensemble au rayonnement de notre pays, à son développement, à sa croissance et également aussi à la création de richesses qui est notre bien. Le Togo est notre bien le plus précieux que nous possédons tous. Il nous appartient, donc je voudrais encourager une fois de plus toute la population à faire usage des institutions qui sont mises à leur disposition, des textes, et à ne pas hésiter à se rapprocher pour avoir de plus en plus d'informations au lieu, comme on le dit souvent, de se cantonner à écouter les fake news et à faire des supputations. Voilà le point précis.
Merci, Madame la Ministre. Merci à vous, chers confrères. Nous embrayons sur le sujet suivant, qui est l'objet même de la présence de Madame Massa Meïssa à nos côtés. Mais commençons par cet article de Flambeau, paru aujourd'hui, qui à la page 7 écrit « Transfert monétaire pour les couches les plus défavorisées, le Grand Lomé désormais éligible ». Et je me rappelle également un autre titre de Ouara les vainqueurs, qui parlant du budget 2023, je vais retrouver cet article. Oui, loi de finances exercice 2023, près de la moitié du budget consacré au social, rappelle Liberté, avec ces transferts monétaires qui vont être faits pour les plus défavorisés, les plus démunis du Grand Lomé. Tout cela participe, si je ne m'abuse, à la question de l'inclusion financière dont Madame Massa Meïssa dirige le ministère. Eh bien, Madame, je le disais tantôt, en Conseil des ministres, le 18 janvier 2023, vous avez présenté une communication qui laissait entendre que le Togo était ou est champion en inclusion financière en Afrique de l'Ouest, dans la zone UMOA. Alors, voulez-vous nous rappeler l'essentiel de cette communication que vous avez délivrée devant le chef de l'État et vos collègues?
Merci beaucoup. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais juste rappeler le point que vous avez précisé, la question du budget qui a été consacré au social dans la loi de finances 2023. Il nous souvient que dans les engagements que le chef de l'État avait pris en 2020, il était question effectivement de consacrer une grosse part au social dans notre pays. Et c'est l'axe 1 de la feuille de route qui partage l'harmonie sociale, l'inclusion pour tous. Effectivement, tous les Togolais doivent pouvoir profiter des fruits du Togo et de pouvoir aussi contribuer. C'est l'entraide, c'est la solidarité nationale qui doit primer. Et comme vous l'avez constaté, depuis quelques années, la quote-part du volet social, dans son ensemble en fait, quand on prend tous les programmes sociaux, l'inclusion financière, l'action sociale, le développement à la base, on a en fait une volonté qui est là du gouvernement et du chef de l'État de consacrer beaucoup plus de budget pour aider les Togolais à vivre mieux et à pouvoir mieux s'en sortir dans leur vie quotidienne. On a vu le contexte mondial, comment il est. On a vu les difficultés. On a été confronté à plusieurs petites crises. Et on a vu effectivement que le seul outil qu'on a effectivement, c'est de venir en aide aux plus vulnérables qui sont Togolais comme nous à part entière et de pouvoir leur consacrer un peu plus de budget et de les sortir de la pauvreté.
Merci.
Maintenant, revenons à la question d'inclusion financière et le cas du Togo. Pour beaucoup, ils vont penser que c'est comme une surprise pour beaucoup. Mais pour nous, ça ne nous surprend pas. Parce que la question de l'inclusion financière au Togo a commencé, c'est pas aujourd'hui. Depuis 2014-2015, et bien avant, même en 2009, il y avait le ministère des Finances qui pilotait le projet PASNAM, qui est le projet d'appui à l'assainissement, le projet d'appui à l'émergence de la microfinance, qui avait déjà commencé à poser les prémices. Donc, c'est petit à petit que nous avons construit, en fait, notre stratégie d'inclusion financière. Nous avons posé les jalons de ce que nous voulons faire en matière d'inclusion financière, parce qu'on s'est rendu compte dans le monde entier que tant que les personnes sont exclues du système financier, ils n'arrivent pas à rentrer dans les indicateurs de l'État et n'arrivent pas à se développer. Donc, c'est de leur donner les moyens. On pense que l'inclusion financière, c'est que des crédits, mais non. C'est tout un arsenal avec de l'assurance, avec des crédits, avec de l'épargne, mais aussi d'avoir accès au fonctionnement normal d'une société. Et depuis 2014, que le Togo s'est engagé vraiment, véritablement, en mettant en place non seulement le fonds, ensuite un ministère dédié à la problématique et tous les programmes qui vont avec, le classement du Togo depuis 3 ans est constant en fait dans la zone UEMOA. Tous les ans, nous avons les pays avec la plus forte progression et l'année 2021 devient la concrétisation de tous les efforts qui ont été faits et tout l'investissement que l'État a fait et la part que l'État a consacrée à cette question d'inflexion financière. Aujourd'hui, rien que pour le FNFI, sans compter les autres programmes, on sait qu'il y a plus de 100 milliards qui ont été consacrés pour pouvoir aider vraiment les couches les plus vulnérables à acquérir des ressources, mais ce n'est pas des ressources à la consommation. C'est pour leur permettre d'exercer une activité. Et on se rend compte que quelqu'un qu'on aide, comme on dit souvent, au lieu de leur donner du poisson, on leur apprend à pêcher. Et on se rend compte que progressivement, les personnes se développent, ça améliore leurs conditions de vie, ça réduit la pauvreté, mais on sort de l'assistanat. Ce n'est pas en fait des dons qui sont faits, mais c'est une éducation, c'est un changement en fait de paradigme et de mentalité qui fait qu'aujourd'hui les gens se sentent un peu plus valorisés parce que vous et moi, quand quelqu'un passe son temps à nous donner de l'argent pour faire du social, on a aussi notre ego. Mais quand on nous donne la possibilité nous-mêmes de nous construire, il y a une question de fierté, il y a une question de reconnaissance et on se dit qu'on est capable de s'assumer les autres et le propre d'un être humain, c'est de pouvoir s'assumer et sa famille. Donc aujourd'hui, le gouvernement togolais et l'État togolais, depuis des années, a mis en place des mécanismes pour permettre à tout Togolais qui le souhaite, même le plus vulnérable, de prendre le train en marche et de se dire « moi aussi je veux m'assumer, j'ai des outils à ma disposition et je tente ». Et aujourd'hui, quand l'UEMOA reconnaît ses performances, parce que aujourd'hui, quand on dit le Togo est le premier pays en classement en taux d'inclusion financière stricte, en taux de bancarisation également, et également en taux de croissance de points de service de l'inclusion financière, c'est tout un microcosme qui s'est mis en place et les résultats que nous voyons aujourd'hui et qui sont salués par l'organe de régulation sous-régionale, c'est logiquement l'implication qui a été faite par le plus grand leader de ce pays déjà en 2014, qui a fait confiance à ces mécanismes et qui aujourd'hui porte leurs fruits. Ce que nous espérons aujourd'hui, on n'est pas dans une course au classement, nous nous réjouissons que ces efforts soient reconnus et maintenant commence à se matérialiser. Mais ce que nous espérons le plus, c'est de pouvoir continuer à offrir des réponses adaptées, y compris à ceux, aujourd'hui, qui n'arrivent toujours pas à trouver de solutions adaptées pour pouvoir s'inclure.
Et nous, alors ça, justement, nous madame, voulez-vous nous situer sur la participation concrète de ces efforts d'inclusion financière dans la vie, par exemple, des individus, des familles ou des très petites et moyennes entreprises, et particulièrement de la gente féminine?
Pour la gente féminine, ça, il n'y a pas de dessin. Souvent, quand on parle du FNFI, tout le monde parle des femmes. Et pourtant, nous avons aussi des hommes. Mais pourtant, tout le monde parle des femmes. C'est parce qu'effectivement, on a fait le choix de pouvoir donner des produits qui permettent à toute couche. Et nous savons que dans nos pays, malheureusement, et les femmes, quand je parle de nos pays, c'est de sous-continent, les femmes, en fait, sont parmi les plus vulnérables. Déjà par leurs conditions, par la mentalité, le poids de la culture. Mais également, pendant longtemps, nous avons occulté le fait que les femmes sont le creuset de nos sociétés, en fait. Elles portent les enfants, elles dirigent la famille, et puis elles savent faire preuve de résilience. Et dès que les premiers produits du FNFI ont été mis en place, vous avez vu l'engouement des femmes autour de ces produits. Aujourd'hui, on a plus de 65% de femmes qui bénéficient de nos produits. Quand on regarde, quand on fait les statistiques, on se rend compte que chaque produit qu'on sort, c'est les femmes qui répondent massivement. Et le taux de remboursement aussi, les femmes ont un meilleur taux que les hommes. Donc c'est dire que le sens de la responsabilité et du pragmatisme dont elles font preuve, elles le traduisent. Aujourd'hui, je rencontre des femmes j'avais rencontrées peut-être il y a 5-6 ans, qui avaient pris des crédits de 30 000. Aujourd'hui, quand je vois ces mêmes femmes, il y a une certaine fierté qui s'installe parce qu'on les a vues grandir, gravir les échelons. Elles roulent en voiture aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est les nouvelles Nana Benz, Mais à titre d'exemple, bon, je vais faire de la pub pour une des bénéficiaires. Vous voyez l'hôtel Maman La Vie, à l'entrée de Nautier, en face du nouveau stade qui se construit. Cette femme, il y a 7 ans, je l'ai rencontrée, elle venait d'avoir un crédit de 30 000 francs. Elle venait d'avoir un crédit de 30 000 francs il y a 7 ans. Mais aujourd'hui, elle a un hôtel avec des emplois créés et elle a eu un crédit de plus de 50 millions auprès de notre partenaire bancaire Aurabank. Donc, c'est vous dire, en fait, la contribution, mais chacune à son niveau, en fonction de ses capacités, en fonction de ses ambitions, quand elle arrive à trouver le produit adapté qui puisse l'accompagner. Et c'est ça, en fait, que nous faisons, c'est que c'est dans la progressivité que nous les accompagnons pour pouvoir s'inscrire durablement dans le développement de ce pays.
Donc, des femmes aux individus en général, aux familles, progressivement, l'inclusion financière soutient également les petites unités entrepreneuriales.
Oui, aujourd'hui, au FNFI, nous nous réjouissons. Nous avons un peu plus de 14 produits en partenariat avec et les microfinances et les banques. Donc, ils vont de 30 000 francs à 50 millions. Donc, c'est vous dire le panel que ça représente, aussi bien pour des individus, pour démarrer vraiment, pour voir, en fait, effectivement, pour retrouver leur voie. Et une fois qu'ils se sont installés et qu'ils ont bien, cerné leurs besoins, nous pouvons les accompagner davantage vers d'autres outils et nous ne ménageons pas les efforts. Et c'est l'occasion de féliciter toute l'équipe du FNFI qui, continuellement, essaie de trouver des solutions à toutes les difficultés que les entreprises ont pour accéder au financement.
Eh bien, dans ce sens-là, lors des clôtures, des forats des producteurs agricoles, entre autres questions que les paysans posent, c'est le financement du secteur agricole. Et il en a encore été de même à Socoré. Je présume que vous étiez aux côtés du chef de l'État quand vous avez écouté les paysans, les producteurs agricoles de la centrale poser le problème de financement agricole. Alors, est-ce que l'inclusion financière pense s'inviter sur le terrain agricole, madame?
Oui, nous accompagnons déjà les agriculteurs et on a des produits dédiés à l'agriculture, notamment l'AgriCEF. Mais ce produit avait été conçu comme les autres pour accompagner les toutes petites unités, les petites structures. Et nous rendons compte aujourd'hui du poids de l'agriculture dans le développement économique de notre pays et de la nécessité de développer ce secteur. C'est notamment pour ça que les forums du paysan régionaux ont été initiés et qu'on est passé d'un format national à un format régional. Et la question du financement qui se pose dans l'agriculture se pose en fait comme toute dans tous les secteurs, parce que nous sommes multisectoriels et c'est des doléances que nous entendons pour tous les secteurs. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture et nous espérons que d'ici peu, en ayant pris le temps d'écouter tous les agriculteurs, et nous faisons des échanges avec eux de manière permanente depuis les
forats. D'ici peu, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la date? D'ici peu, les besoins sont présents.
Bon, on a commencé le forum, donc on a écouté leurs déléances et nos équipes participent activement à leur côté pour les questions de financement, pour écouter. Et comme on dit souvent, le financement, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, c'est pas des dons. Donc nous devons bien cerner leurs besoins. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes rendus compte, et ça à juste titre, en les écoutant avec beaucoup plus de proximité, que les petits producteurs ont trouvé des réponses adaptées. Mais aujourd'hui, notre écosystème n'était pas conçu pour accompagner les grosses productions et les productions à échelle. Et ça, nous travaillons pour pouvoir permettre à ceux qui veulent se lancer dans la production à échelle de pouvoir passer le cap et avoir les arsenaux financiers adéquats. Mais nous espérons que d'ici le début de la saison agricole, nous aurons des réponses adéquates. Et je ne doute pas que mon collègue de l'agriculture aussi, qui travaille d'arrache-pied sur la problématique, puisse nous aider à mieux structurer et puis apporter des réponses adéquates.
Madame. Tout le mécanisme que vous avez rappelé depuis 2009 s'est trouvé renforcé par cette stratégie nationale d'inclusion financière adoptée par le gouvernement en 2021. Deux ans à peu près environ, où est-ce que nous en sommes, madame?
On peut dire que c'est en marche. Et nous avançons avec prudence, mais avec des résultats concrets, palpables. Et bon, malheureusement, c'est vrai que nos équipes ne font pas souvent le tour des médias pour vous tenir informés. Nous allons essayer de corriger cela. Mais ce que je voudrais juste rappeler, c'est que la stratégie nationale, en fait, s'est déclinée en trois axes. Le premier axe, c'est l'amélioration de la gouvernance des microfinances et de ceux qui interviennent dans le secteur, puisque c'est eux les acteurs principaux. Mais également aussi la mise en place de produits adaptés aux besoins des populations. Donc du coup, comme je le disais, sur le volet agricole, nous travaillons dessus. Mais en deux ans, nous avons travaillé aussi sur l'accès au financement, notamment avec les mesures dont on avait parlé l'année dernière quand on s'était rencontrés. Les mesures qui avaient été prises pour la réduction des taux d'intérêt dans certaines zones du Togo pour faciliter l'accès aux services financiers. Et cette mesure, en fait, est une suite logique et découle de l'axe 2 de la stratégie nationale d'inclusion financière qui visait effectivement à mettre des produits adaptés à disposition des populations. Et juste pour faire un peu le parallèle et pour vous montrer, c'est que quand ces mesures ont été prises dans le cadre de l'axe 2, au titre de l'année 2021, nous avons été agréablement surpris qu'on a eu un regain d'activité au niveau du fonds et de crédits mis à disposition. C'est parce que nous avons dépassé en fait nos objectifs qu'on s'était fixés. Et à titre d'exemple, on avait dit dans les zones les plus reculées et dans les zones les plus vulnérables pour réduire le taux d'exclusion financière de certaines zones. À titre d'exemple, les régions des savanes, en un an, nous avons réussi à faire 21 000 crédits. C'est tout simplement parce que l'État consentit un effort important en réduisant les taux d'intérêt, comme vous l'avez expliqué à l'époque, qui sont passés à 1% dans certaines zones où le crédit était plus difficile à faire. Mais on s'est rendu compte que ces populations, effectivement, n'ont pas forcément les mêmes besoins que les zones qui sont en zone urbaine. Donc nous avons adapté et mis en place certains dispositifs qui sont propres à eux et qui a permis une adhésion de ces populations et qui leur a permis d'avoir des crédits beaucoup plus adaptés. Donc la stratégie, comme on l'a dit, c'est sur une période de 5 ans. Nous mettons en place différents axes de manière progressive et en concertation avec le ministère des Finances. Et pour l'axe 1 qui concerne l'amélioration de la gouvernance, notre collègue finance également a fait adopter la stratégie d'assainissement du secteur de la microfinance qui vient en fait en cohérence avec le premier axe de la stratégie d'inclusion financière et va permettre effectivement de réguler et de mieux réguler en fait le secteur parce qu'il faut qu'on puisse accompagner les acteurs aussi, donc qui sont les institutions de microfinance, à avoir un cadre d'intervention beaucoup plus sain et beaucoup plus coordonné pour pouvoir leur permettre d'exercer leur activité dans des bonnes conditions pour mieux servir les clients. Donc la stratégie nationale d'assainissement qui est adoptée par le ministère des Finances également en cours de déroulé. Et d'ici, je pense, la fin du premier trimestre, on aura l'occasion de vous présenter effectivement les actions concrètes qui ont été mises en place dans le cadre de ces différentes stratégies.
Vivement, vous en parliez tantôt officiellement, le taux de remboursement qui se situe autour de 94,5%, madame, c'est bien. Mais il reste toujours les défis liés au défaut de paiement. Est-ce que vous y réfléchissez?
Bien entendu, on y réfléchit. Dans le cadre des activités de crédit, la première chose qu'un banquier vous demande quand vous arrivez chez lui pour faire un emprunt, c'est comment vous allez me rembourser. Et donc, vulnérabilité ou pas, ou accompagnement à caractère social ou pas, nous nous posons également la même question parce que ce qui nous tient à cœur, c'est la pérennité de l'outil. Puisque tant que les remboursements se portent bien, ça fait des ressources supplémentaires qu'on peut réinjecter au profit d'autres Togolais. Et nous avons mis en place avec nos partenaires microfinance SFD qui nous accompagnent des dispositifs de risque pour leur permettre d'atténuer le choc des impayés. Mais nous nous atténuons pas forcément spécifiquement sur cette question d'impayés puisque c'est une volonté de l'État d'accompagner tout le monde. Et effectivement, tant que l'instrument répond bien, nous restons confiants aux populations qui en bénéficient. Aujourd'hui, un taux d'impayé de 5%, on ne va pas se jeter des fleurs, mais c'est des taux de remboursement qui sont meilleurs que certaines banques, en fait. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, nous, le fait d'avoir fait confiance aux populations les plus vulnérables, ils répondent mieux, mais tout un arsenal de dispositifs, il y a des fonds de garantie qui sont mis en place pour pouvoir accompagner justement les périodes d'impayé des bénéficiaires. Et comme nous avons mis en amont beaucoup d'aspects, nous sommes impliqués beaucoup sur la partie éducation financière pour mieux expliquer et structurer et l'accompagnement que nous faisons au quotidien de nos bénéficiaires leur permettre de mieux s'approprier en fait les dispositifs et les impayés que nous avons dans nos livres, la plupart du temps ne sont pas dus à de la mauvaise foi, mais peut-être, j'appelle ça souvent de la malchance parce qu'on commence une activité et ça ne marche pas. Donc nous essayons de trouver des dispositifs pour accompagner ces populations qui sont en situation d'impayé à reprendre une activité pour pouvoir leur permettre de solder leurs activités. Donc nous sommes plutôt sur un côté éducatif puisque nous avons ce rôle aussi d'éduquer la population à l'éducation financière.
Merci. Je reviens au Conseil des ministres du 18 janvier lorsque dans votre communication, vous avez également annoncé au gouvernement que notre pays va accueillir en octobre prochain la semaine africaine de la microfinance. Alors, voulez-vous nous dire quels sont les défis pour le Togo d'accueillir cette semaine africaine qui va débattre de la microfinance?
La semaine africaine de la microfinance est un événement qui va être à sa sixième édition. parce que en 2019 c'était le Burkina Faso, en 2021 le Rwanda, et on peut dire que c'est un peu la grande messe de la microfinance en Afrique, et ça permet en fait aux États, au gouvernement, à tous les acteurs et aux experts niveau nationaux, sous-régionaux et mondiaux, de pouvoir s'appesantir sur les défis qui sont liés en fait à l'expansion ou les freins qui nous permettent pas d'atteindre justement les objectifs que les États eux-mêmes se fixent en matière d'inclusion financière. Et pour les éditions précédentes, ça a permis effectivement aux pays sous-régionaux de pouvoir en fait harmoniser les réglementations sur la question de la microfinance, de voir les stratégies de qu'il faut mettre en place pour pouvoir mieux répondre en fait aux besoins des populations en termes d'inclusion financière au sens plus large. Mais ça permet également pour les pays qui accueillent cette édition, non seulement d'un point de vue touristique, parce que c'est la messe, grande messe africaine, donc on attend 52 pays pour ces éditions qui vont se dérouler en octobre avec des experts du monde entier. Et ça permet également de faire un partage d'espérance avec nos pays frères et sœurs pour savoir en fait pour tirer les leçons des points positifs et des succès des uns et des autres. Mais ça permet également pour le pays qui accueille de pouvoir aussi nouer des partenariats pour pouvoir mobiliser davantage de ressources pour le secteur de la microfinance. Et quand je dis le secteur de la microfinance, je ne parle pas juste du FNFI, mais le secteur tout entier de la microfinance. Et ça permet en fait de faire venir tous les partenaires qui vont permettre aux acteurs nationaux, donc les institutions de microfinance présentes, de pouvoir en fait nouer des partenariats beaucoup plus structurants, mais également aussi de bénéficier d'accompagnement technique et structurel pour pouvoir mieux exercer leur métier. Mais pour le Togo, bon, pour nous, ça nous permettra également de mettre davantage en exergue les succès que nous avons en la matière, mais également aussi de mobiliser, faciliter au gouvernement la mobilisation de ressources dédiées vraiment aux stratégies d'inclusion financière que nous mettons en place pour nos pays.
Nous apprenons qu'il y aura cette semaine des investisseurs, des institutions de microfinance, des chercheurs, des banques, des réseaux, des innovateurs. Madame, j'ose espérer que vous allez suffisamment associer la presse togolaise à la couverture de la semaine africaine de la microfinance.
C'est une évidence. Quand il y a la semaine de la microfinance, la semaine africaine de la microfinance au Togo, il est bien évident que ce sont les médias togolais qui vont faire la couverture. Puisque je vais me permettre une petite blague. Un média international ne pourra pas aller expliquer en mina à la bonne dame du marché.
Si, madame, parce que nous savons, nous journalistes, que lors de ces grandes rencontres internationales, le gouvernement et vos partenaires vous privilégiez importer des journalistes que vous payez à prix d'or. Oui. Vous leur payez des billets d'avion, vous les logez dans des hôtels, vous mettez à leur disposition des voitures. Ils sont traités comme des princes. Nous, la presse togolaise, nous sommes relégués. Et après, les flonflons de la rencontre, non, c'est vous et nous qui sommes sur le terrain.
Il n'y a pas de poids, de mesure.
Si, il y en a eu, madame.
En fonction de chaque thématique, effectivement, on adapte. Mais bon, là, il s'agit
Vous voyez comment le confrère, oui.
Voilà, en fonction de chaque thématique, et effectivement, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes tous conscients que pour certains événements, il faut beaucoup de la visibilité, parce que c'est la visibilité pays. Mais on associe toujours les médias locaux pour faire les relais, parce qu'à chaque événement, j'ai toujours rencontré des confrères médias togolais sur les lieux, et à chaque fois qu'il y a des sommets ou des conférences, on en parle abondamment dans nos médias nationaux. Donc si les médias n'étaient pas associés, je doute fort qu'ils aient les éléments pour pouvoir aussi en relayer. Mais comme je le disais, s'agissant en fait de quelque chose qui touche nos populations les plus vulnérables, on aura besoin de toute manière des médias locaux, et en dehors même des médias urbains, de ceux qui sont dans des zones un peu plus reculées, pour pouvoir faire partager à nos consoeurs et à nos confrères togolais qui sont à l'intérieur du pays ce qui ressort de ça. Et j'espère que vous mettrez à disposition tous vos collaborateurs et confrères qui parlent les langues locales.
Il n'y a pas de souci, madame. En fait, nous allons apprécier au moment de cette semaine africaine de la microfinance que notre pays aura l'honneur d'abriter. Madame Massama Essoassi, ministre en charge de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel, qui est à nos côtés, sûrement que sur les auditeurs pour réagir incessamment. Il nous reste une vingtaine de minutes. Si vous le souhaitez, on va quand même aborder les autres sujets. Oui, Magloire.
Oui, peut-être une question à Madame le ministre. On va parler un peu de transfert monétaire. Selon les chiffres, je crois qu'il y a au moins 100 000 ménages togolais qui en bénéficient déjà. Et comme nous l'avons titré cette semaine, Lomé la capitale vient d'être éligible. Et selon les informations, il y a d'ailleurs une campagne d'enregistrement en cours dans 45 quartiers de Lomé. Alors, je voudrais demander comment est-ce que vous y prenez pour que les Togolais aient l'information, parce que je présume, c'est vrai, on cible un peu plus de 26 000 ménages, mais je présume que vous allez avoir beaucoup de répondants. Alors, quels sont les mécanismes que vous mettez en place d'abord pour que l'information puisse être saisie par les Togolais, pour que vous aussi également, vous puissiez atteindre les objectifs recherchés?
Madame. Comme je vous l'ai dit, le programme transfert monétaire est piloté par mon collègue du développement La Base. Bon, on a la latitude au titre du gouvernement de vous répondre. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans une, nous sommes au Togo dans une volonté en fait de cibler directement les populations et ceux qui sont dans le besoin. Donc, c'est vrai que vous voyez pas beaucoup de campagnes de communication autour, mais avant que cette campagne de recensement ou d'enrôlement des bénéficiaires soit lancée, il y a un travail préalable qui sont faits par les agents des ministères sur le terrain. Donc, on connaît les personnes vulnérables, on sait les zones où ils habitent. C'est de la confirmation, effectivement, de leur identité, de qui ils sont et des conditions, puisque les critères d'éligibilité sont définis et, effectivement, souvent, pour aller à l'approche des populations les plus rurales et les plus vulnérables, c'est pas les médias qui sont les plus indiqués. Donc, il y a souvent des réunions qui sont faites avec les chefs quartiers, les chefs cantons, les personnes ressources dans les quartiers. Il y a du porte-à-porte et il y a aussi le gongonage. Parce que n'oublions pas que culturellement, aujourd'hui, bon, je pourrais dire que les radios sont devenues en fait la modernisation du gongonage, puisque traditionnellement dans nos zones, c'est le gongonage qui prévaut. Donc il y a ce type de sensibilisation qui est fait sur le terrain, en amont et avant même tout démarrage d'activité technique. Donc une fois que la phase d'enrôlement sera faite, ça permettra en fait de cibler les personnes qui correspondent en fait aux critères préalablement définis. Et ce programme de transfert monétaire, comme je le disais, je l'ai dit tantôt, la volonté de l'État togolais avant toute chose, c'est un partage de richesses avec ceux qui sont le plus dans le besoin. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir soutenir les personnes qui sont les plus fragiles et de leur permettre de ne pas sombrer, mais de pouvoir garder la tête hors de l'eau, de pouvoir subvenir à leurs besoins et aussi, par la suite, quand ils iront mieux, de contribuer au développement économique de notre pays. Donc, ma collègue, bien entendu, sera beaucoup plus indiquée pour vous répondre, mais de manière schématique, il y a tout un travail préalable qui est fait avant toute opération terrain.
Merci des foyers vulnérables à la microfinance. Nous allons maintenant nous intéresser à un monument de la haute finance, je dirais internationale, que nous venons de perdre. Il s'agit de Ignace Kloméguen. Il orne la manchette de la Nouvelle Tribune. Et l'homme, ton journal titre, hommage de l'Association des grandes entreprises du Togo à un monument de l'entreprise. Il était une fois Ignace Kloméguen. Pendant que Flambeau des démocrates lui aussi écrit que Jonas Daou rend un vibrant hommage à Ignace Kloméguen. Deux mots sur Ignace Kloméguen. Qui il fut? Et ce qu'il a pu faire.
Je ne sais pas si en deux mots on peut résumer le personnage, parce que mais il faut d'abord saluer cette tribune de l'Association des grandes entreprises du Togo à Ignace Kloméguen, sa famille professionnelle, j'allais dire. Vous savez, il y a de ces étoiles que nous ne célébrons pas malheureusement au Togo. C'est vrai que le personnage...
De leur vivant,
le personnage fut quand même discret, très discret, mais très brillant. Je pense que des étoiles comme ça naissent chaque génération, chaque demi-siècle. Parce que de la trempe d'Ignace Kloméguen, on va devoir attendre plusieurs années avant de les avoir au Togo. Et pour le parcours de l'homme, on est revenu dessus dans notre parution, dans cette tribune. Et aussi pour ceux qui ont suivi également l'actualité ces derniers jours, vous avez dû suivre également sa biographie faite par un compatriote sur un média international. Ignace Kolomega, c'est quand même, comme on l'a dit dans notre parution, un monument de l'entreprise, quelqu'un de très respecté à l'international pour avoir fait plusieurs grands cabinets de renom. Je vais pas me mettre à les citer tous ici, mais quand on dit Ignace Kolomega au Togo, loin de sa casquette administrative, parce qu'il est président de conseil d'administration de certaines sociétés d'État, également dans le privé, pour celui qui a roulé sa bosse, il est quand même le mentor de plusieurs entreprises. Abidjan, c'est quand même le PP de beaucoup de personnes, et depuis Oufouette, il n'y a pas de gouvernement formé en Côte d'Ivoire sans un poulain ou deux de Ignace Kolomega. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qu'on pleure, que le monde des affaires, le monde de l'entreprise est en train de pleurer, expert comptable de formation et de profession. Quand on dit Deloitte Togo, on sait à peu près vers qui tourner la tête, c'est Ignace Kolomega. Et à travers cette tribune également, nous présentons toutes nos condoléances au secteur privé et puis à sa famille professionnelle et à toute l'équipe de Deloitte Togo, notamment à sa managing partner.
Merci Ignace Kolomega qui s'en est allé. Félicitations et merci à notre confrère Jean-Baptiste Placard qui lui a consacré ce bel éditorial sur Radio France Internationale. Que ses œuvres le suivent et surtout qu'il en émerge après lui. Nous parlions tantôt du Togo, notamment les moins riches. Et c'est sûrement pour avoir une meilleure idée de qui nous sommes, où nous sommes, nos besoins, que la Première ministre a lancé les travaux d'élaboration du schéma national de l'aménagement du territoire. C'est en milieu de semaine. Voilà, les vainqueurs nous le rappellent aujourd'hui. Cet aménagement de l'espace, c'est dans une vision prospective. Les hommes et les femmes togolaises, leurs activités, les équipements dont ils ont besoin, les moyens de communication, voire les stratégies. C'est tout ça là que le gouvernement veut savoir de façon plus nette dans ce schéma d'aménagement du territoire. Michel, j'espère que le gouvernement nous communiquera les résultats de ce schéma d'aménagement du territoire. Quand ce sera fini, nous parlons devant témoin qui va transmettre à qui de droit.
Je pense que si Madame le Premier ministre a lancé le processus d'élaboration du schéma national d'aménagement, c'est qu'à la fin, cela va quand même permettre le Togo d'avoir une orientation beaucoup plus nette et en termes de développement. Vous savez qu'on ne peut pas parler de développement sans aménagement du territoire. Et c'est bien vu de la part du gouvernement de faire en sorte que ce processus soit bien conduit. Espérons qu'à la fin, ça puisse changer un temps soit peu le visage du développement de notre pays.
Merci. Sans transition, nous allons vers le grand voisin du Nigeria qui a connu une élection présidentielle le samedi dernier. Les résultats sont tombés hier, élection très serrée, taux de participation vraiment décevant quand on apprend qu'il n'y a que 25% de la grande population du Nigeria qui est allée aux urnes. Ça doit interpeller non seulement les politiques du Nigeria, mais de toute l'Afrique, dont le Togo. Comment faire en sorte que les élections redeviennent attractives, que les citoyens de notre pays, le Togo d'ailleurs, comprennent le sens d'aller voter en entendant que c'est la personne pour qui ils auront voté qui sera proclamée élue. Ça, c'est important. Mais pour le Nigeria, les résultats tels que nous le connaissons depuis... Flambeau en parle et c'est la mode anglaise. C'est la mode à l'anglaise. Quand vous écrivez Nigeria, Buhari exit, Bola enter, démocratie. En français facile, Magloire?
Ben, en français facile, c'est pour dire tout simplement que Buhari sort et Bola entre.
Oui.
C'est la démocratie qui gagne.
Et voilà. Et le changement aussi qui en parle écrit. Le Nigeria perpétue sa tradition d'alternance au pouvoir si le Togo suivait l'exemple. C'est le vœu qu'émet le changement pendant que Chronique de la Semaine nous informe aussi le vainqueur de la présidentielle, Bola Tinubu, qui déjà dans ses premiers propos tend la main à ses rivaux. Michel, je le disais, le taux de participation d'abord très faible, 25%. On a annoncé l'électorat autour de 93 millions. C'est la population en âge de voter. Oui. Mais ceux qui ont voté pour Bola, ça fait juste 8 millions.
8 millions.
8 millions qui ont voté pour le nouveau président.
Oui.
Sur une population
de
93 millions, ça pourrait poser un problème.
93 millions en âge de voter.
En âge de voter. Voilà. La population totale, même, je
210 millions.
Bah, alors, mais quand même, les premiers propos de Bola Tinubu, hein, qui a dit hier qu'il comprend la déception de ceux qui n'ont pas, hein, de ceux qui n'ont pas voté pour lui, dont les champions n'ont pas été élus, mais il tend quand même une main au nom du projet nigérien.
Ah oui. D'abord, le fait que après donc la proclamation par la commission électorale, après la proclamation des résultats, il n'y a pas d'affrontement. Déjà, il faut qu'on salue cela. Mm-hmm. Connaissant le Nigeria et d'autres pays comme le Kenya, où l'élection rime avec des milliers de morts, des milliers de déplacés, des milliers de blessés, je pense que si... au-delà de ce faible taux de participation, s'il n'y a pas diffusion de sang, s'il n'y a pas affrontement, je pense que les Nigériens entre eux pourront régler leurs problèmes. Et les propos du président, en tout cas du candidat vainqueur, rassurent. Hein, promettent, si tu veux, mais sinon, moi je dis, ça rassure la communauté internationale parce que. Les gens craignaient, c'est de ça que je veux parler, les gens craignaient que, avec le faible taux de participation et le fait que les perdants avaient déjà commencé à critiquer la commission électorale, et appelant même à rejeter,
annuler
donc les résultats et dans les esprits des Nigériens, est-ce que ça ne peut pas déboucher sur des crashs? Et si, au finish... jusqu'à ce matin, le bateau semble tenir bien. Je pense que ça peut quand même amener les malheureux, en tout cas les perdants, à digérer petit à petit leur échec et voir comment tenir. Parce que le Nigeria, ce n'est pas rien. Le Nigeria, de par son économie, de par la population... C'est un pays très important. Tout le monde a les regards rivés.
C'est la première économie de tout le continent.
Donc, si ça ne va pas bien là-bas, je pense que ça va avoir des répercussions sur, en tout cas, beaucoup de pays.
Dont nous, le Togo.
Donc, nous avons intérêt à ce que les choses aillent très bien. Et j'avoue que la manière dont je vois les choses, si tout va bien... l'élu, je pense que c'est Tinubu, hein.
Oui.
Bola Tinubu, voilà. Peut vraiment, avec son âge, l'expérience politique qu'il a, son 11 ans, il peut essayer de maintenir le bateau nigérian qui, ma foi, intéresse tout le monde.
Oui, parce que le Nigérian, hein, c'est la locomotive de la CDAO et au-delà. Hein, Magloire, on peut dire que Bola Tinubu, c'est du nouvel ancien. D'abord, 71 ans, il a eu une riche carrière politique, et puis il est le vice-président du président sortant. Il a quand même l'expérience, en plus de l'âge.
Bien évidemment, je crois que il fait la somme de tout ce que vous venez de citer. Moi, ce qui me fascine encore plus, c'est son parcours politique. Hein. Vous savez, le monsieur, il est parti nulle part, c'est-à-dire qu'il était chauffeur de taxi au départ. Aux États-Unis pour financer ses études et avec travail abnégation, il est sorti comme brillant et comptable. Et c'est en cela qu'il a commencé par faire son parcours politique où il a été dans l'ombre de beaucoup de politiques. Il était ce faiseur de roi au Nigeria ces trois dernières décennies. Et aujourd'hui, c'est son heure, comme lui-même il l'a dit, c'est son tour. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est quand on voit un peu le pourcentage, il souffre déjà d'une certaine légitimité. Ça, c'est une évidence. Mais ce qui me rassure, c'est que oui, voilà, l'homme a déjà fait ses preuves en tant que gouverneur du Grand Lagos. Et c'est en cela même qu'il dit aux gens que c'est son premier atout, c'est-à-dire qu'il a su mettre au service de sa communauté son expérience et son carnet d'adresse pour bâtir Lagos telle qu'elle est aujourd'hui, telle que la connaissons. Et il compte, n'est-ce pas, mettre cette même compétence au service du Grand Nigeria. Maintenant, vous l'avez dit, son âge, ces détracteurs mettent devant son âge pour essayer de le critiquer. C'est vrai que son élection même a été contestée. Ça, ce n'est pas nouveau parce que sur le continent africain, c'est d'ailleurs notre sport favori. Mais je crois que l'homme n'est pas parachuté sur la scène politique comme cela. S'il est arrivé, ne serait-ce qu'à avoir la confiance de 37% de ceux qui ont décidé de voter librement, s'il a pu avoir ce pourcentage, je crois quand même qu'il peut surfer sur cette vague et travailler beaucoup plus à amener tous les Nigérians à adhérer à sa vision. Et c'est en cela qu'il va prouver aux gens qu'il était là pour faire quelque chose. Il est un homme de vision et nous l'espérons bien. Le Nigeria, c'est une nation qui a cette tradition de faire dérouler la démocratie. Je ne crois pas que ça soit à l'heure de Bola que ça va chambouler.
Espérons bien, selon leur texte, c'est en mai qu'il va entrer en fonction. Mais pendant que Bola Tinubu se réjouit, il a déjà commencé à esquisser quelques pas de danse. Mais à côté, il y a celui qu'on peut appeler, avec tout le respect qu'on lui doit, l'éternel loser, Atiku Abubakar. Je ne sais même pas à quelle élection il a participé. Toujours partant, toujours loser, avec son alter ego du Kenya,
Raila Odinga.
Toujours aux élections, il perd toujours.
Bon. Définir les politiques togolais.
Non, éternel. Non, nous en avons chez nous ici. Les éternels losers, en temps opportun, on va également mettre les.
Bon, ouais, Atiku Abubakar, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours perdu, mais je sais pas exactement le ce qui ne marche pas avec lui, mais il a toujours été candidat. C'est aussi ça. Il ne désespère pas. Il espère qu'un jour il sera président du Nigeria. Malheureusement.
En tout cas, il a la foi.
Oui, il a la foi, il faut le dire. Malheureusement, le destin en décide toujours autrement. C'est toujours un autre candidat qui vient lui chipper ou lui ravir la vedette. Félicitations à Tinubu Bola, mais le taux de participation vraiment qui est en, je pense, c'est la plus grande leçon à tirer de cette élection. Il faut que tous les hommes politiques du Nigeria essayent de redonner confiance aux Nigérians. Aujourd'hui, vous savez, ça ne vaut pas la peine d'être élu, même si vous êtes élu avec 1 million. Hein, de suffrage sur une population de 9 millions en âge de voter, vous êtes président, hein, mais il y a un problème de légitimité qui se pose, vous comprenez? Et donc, vous ne pouvez pas avoir 9 millions d'électeurs et être élu juste avec une minorité, vous comprenez? Ça ne rend pas légitime en réalité votre action. Je ne dis pas que vous n'êtes pas président, ne fait pas de vous un président, mais sur 230 millions d'âmes, vous faites le ratio, vous posez des questions les matins quand vous vous réveillez, vous vous regardez devant le miroir. Qu'est-ce que je peux faire pour regagner la confiance de ce peuple? Qu'est-ce que je peux faire pour que le Nigeria puisse sentir ou voir véritablement que je suis le président tant espéré, tant attendu pour cette nation? Et donc, je crois que c'est un grand défi pour le président élu et je pense qu'il a du pain sur la planche.
Michel?
Oui, je pense que c'est, et l'homme l'a dit, c'est le taux de participation. Parlons-en, parce que c'est un problème en Afrique. Et si on ne résout pas ce problème, ça va continuer. Et comme Elom l'a dit, la légitimité de ceux qui sont élus va se poser à tout moment. Je pense que si vous regardez très bien, avant les années 2000, les Africains, quand vous prenez, vous regardez, surtout en Afrique subsaharienne ici, les gens allaient au vote. C'est-à-dire un fort taux de participation. Vous voyez, les gens allaient. Mais depuis les années 2000, je pense que l'engouement a baissé. Et c'est là où il faut chercher à trouver la solution. Les gens ont envie d'aller voter. Vous savez, les gens allaient voter. Et si vous faites une bonne observation, avant les années 2000, c'est le jour des élections que les fraudes se passaient. C'est le jour des élections. Soit on vient, on vous bastonne, on vous chasse tout le monde
et on sécurise les urnes.
On sécurise les urnes, les plus forts, voilà, ils gagnent les élections et puis c'est fini. Mais les gens à un moment donné se sont demandé, mais pourquoi aller voter tout le temps alors que, c'est les mêmes qui vont toujours gagner. Mais maintenant, vous observez que les gens, c'est
à focaliser leur énergie sur les commissions électorales. Parce que justement, les gens ont commencé à travailler les commissions électorales avant le jour de vote. Ça veut dire qu'on table sur le vol avant même le jour, en passant par les élections locales. Ce qui veut dire que les populations sont déçues, ils disent que ce n'est pas la peine d'aller. C'est celui-là qui va nous diriger les élections, ce n'est pas la peine d'aller parce que c'est déjà acté. C'est, voilà, en tout cas, à mon avis, comment on explique les faibles participations dans nos
la
pays.
La question reste posée pour le Nigeria, hein? Mais il y a plein d'autres pays africains qui vont également connaître des élections dans ce pays. Hein?
Ou qui ont déjà connu avec les mêmes
le Gabon, je crois la RDC, auront des élections présidentielles. Le Sénégal, ce n'est pas loin. Et même nous avons les élections régionales et législatives. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Hein, afin que les Congolais retrouvent confiance dans les élections, la question se pose aussi bien au gouvernement, mais qu'à toute la classe politique. Chacun doit devoir parler à ses militants, parler à la population, également prendre les décisions que nous retrouvions une fois dans les élections. Oui, madame la ministre, assis.
Oui, je voudrais juste peser sur ces questions sans aller dans le fond du débat. Mm-hmm. Je le disais tantôt avec l'exemple de la confiance des populations dans les institutions de la République. C'est démocratique et chaque démocratie se construit progressivement. Et il faut qu'on arrête aussi de se comparer à d'autres pays parce que nous avons nos propres histoires et nous avons nos propres fondements et nos propres poids de société et aussi nos propres cultures. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une question d'éducation et d'intérêt. On peut s'intéresser à la chose politique comme on ne peut pas s'y intéresser. Mais c'est ça la liberté et la démocratie dans un pays, de pouvoir aller voter ou de ne pas le faire, d'exprimer son adhésion à l'action gouvernementale ou à l'action d'un pays, ou rester en marge et décider de ne pas s'y intéresser ni de s'impliquer. Et comme je l'ai dit, l'exemple au Togo, le cas du Togo, c'est que on voit que de plus en plus, avec les années, notre démocratie se construit, se renforce en fait. Puisque vous voyez le fonctionnement des institutions, vous voyez qu'il y a de plus en plus de sensibilisations qui sont faites à l'endroit des populations. Vous avez même la classe politique qui se construit et qui fait son chemin. Nous avons nos institutions, vous avez l'Assemblée, nous avons toutes les autres, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, vous avez aussi, comme vous l'avez dit, la Cour suprême et les partis politiques. On a le cadre de concertation qui s'est mis en place, en fait, et qui permet un dialogue avec les acteurs politiques dans ce pays. C'est tous ces efforts qui sont faits au quotidien qui permettent d'arriver en fait à un résultat d'ensemble. Et d'ici quelques années, on aura l'occasion de voir en fait tous les efforts et toute l'implication qui est faite au plus haut niveau pour que ce dialogue inter-togolais persiste et que les Togolais s'intéressent à la gouvernance et à la gestion de leur pays.
Merci madame, mais c'est pas pour relativiser, mais la désaffection des populations vis-à-vis des urnes, c'est un phénomène mondial. Hein. Les dernières élections en France et ailleurs nous ont encore fait voir cela. Il est midi, passé de quelques minutes déjà. Pause ici pendant que vous vous préparez à entrer en scène avec nous. 93.5. Eh bien, il est l'heure. Nous avons parlé de l'inclusion financière ici au Togo avec Madame Massa Maïsor Assi et puis les autres sujets de l'actualité. À présent, la parole est à vous. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Johannes.
Oui, Johannes, nous écoutons.
Vous n'avez pas parlé du rapport aujourd'hui, c'est ça?
Non, pas aujourd'hui.
Ok, d'accord. Je comprends que ça a commencé à rentrer aux oubliettes.
Non, c'est pas ça, Johannes. L'actualité évolue quand même au jour le jour.
Ok. Le lundi, il y a un journaliste qui a semblé donner l'impression que ça faisait trop de continuer à en parler. Mais en tout cas, ce n'est pas trop. Je sais que vous reviendrez là-dessus en temps opportun quand même.
Merci.
C'est vrai qu'au Togo aussi, il y a des éternels perdants.
Ah, vous en connaissez ici au Togo?
Oui, on en connaît.
Ok.
Sauf que au Togo, ce sont les éternels perdants qui sont à la place des éternels gagnants. Les éternels perdants sont plein la place des victorieux. C'est ça la particularité du Togo, okay, contrairement aux autres pays. Merci.
Merci. Nous y reviendrons avec les élections qui se profitent déjà à l'horizon.
Oui, allô?
Le suivant, oui, bonjour.
Oui, bonjour Didier.
Didier, oui.
Oui, bonjour Madame la Ministre. Moi, je relativise beaucoup la dernière intervention du ministre et je m'inscris à mon faux. Je vais lui poser une question. Le ciment que son gouvernement avec l'Assemblée ont fait la dernière fois là, est-ce que ça peut encourager les gens à aller voter? Et puis vous voyez ce qui se passe au Togo aussi dans nos pays là. Quand les hommes politiques ou les gens viennent à la télévision ou bien dans les médias, le politiquement correct aujourd'hui s'est dit que moi je ne fais pas la politique. Si tu ne fais pas la politique, qui va s'intéresser à la politique? Ça qu'on devait encourager les gens à s'intéresser à la politique, à faire la politique, à participer même à la politique de la nation. Sinon, quand les gens viennent dire, moi, je ne suis pas politique, moi, je ne fais pas la politique, ils se sentent corrects. Alors que c'est anormal dans un pays que les gens disent que moi, je ne fais pas la politique, je ne m'intéresse pas à la politique. Même dans nos pays, on devrait même obliger les gens à aller voter.
Ou même invalider les élections qui sont en dessous de 50%. Un pays de démocratie, de liberté.
Hein. Oui, mais il y a des pays en Europe aussi, des pays en Amérique latine, que même en Europe, que si vous n'atteignez pas 50%, on invalide. Il faut refaire les élections. Ouais. Parce que c'est ça qui amène des problèmes. Après, il y a un problème de légitimité. Après, regardez, 8 millions élus pour tout, 200 millions, ou bien 80 millions de c'est pas normal. Il faut obliger les gens. Et puis, secondo, je vais poser une question à Mme la ministre. Ouais. Quelle est la différence entre son ministère et puis le ministère des Affaires sociales? Il serait pas plus intéressant de caser son ministère dans celui des Affaires sociales pour qu'il y ait plus d'efficacité. Je vous remercie.
Merci Didier. Madame a noté, elle vous répond dans un moment. L'auditeur suivant, bonjour.
Salam alaikum, monsieur Stas.
Monsieur Waris.
Je salue tous les invités.
Nous saluons aussi.
Concernant l'inclusion financière. Oui. Monsieur Stas, nous reconnaissons vraiment que l'État fait des efforts en matière d'inclusion financière. Mais c'est que nous remarquons que tous ces produits que l'État met à la disposition de la population concernés n'atteignent pas leur cible. Mm-hmm. Est-ce que madame fait remarque sur le terrain? Maintenant, en 2017, la Banque mondiale avait révélé que plus de 47% des fonctionnaires togolais, si j'ai encore le nombre en tête, des fonctionnaires togolais épargnent pour leurs vieux jours. Est-ce que cette manière de faire, est-ce que, bon, comment est-ce que vous le voyez? Puisque épargner pour son vieux jour, il va falloir qu'on règle certains soucis primaires, comme se soigner, se nourrir, se vestir. Mais quand on dit que plus de 47% des fonctionnaires togolais épargnent pour leur vieux jour, quel est le regard que madame porte sur...
Merci, monsieur Waris. Madame a bien noté. Le suivant, bonjour.
Alors, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Moi, c'est Corneille Davidi.
Corneille Davidi.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Oui, j'aimerais interpeller la madame la ministre sur le fait des lutteurs sur les microfinances. Il y avait une microfinance en tant que monsieur l'homme aussi avait développé dans ses émissions concernant l'humain. Bon, elle a fait mal des microfinances que moi, j'ai eu aussi à ouvrir un compte au niveau de l'humain, mais depuis plus de 2 ans, maintenant de 3 ans, la microfinance a été fermée. Nos fonds sont restés là-bas. Mais oui. Qu'est-ce que, au niveau de Bosch, j'aimerais savoir, est-ce que, à ce niveau-là, est-ce que le ministère compte nous rembourser nos fonds déposés là-bas? Mm-hmm. Cela a parlé des microfinances. Enfin, j'ai interpellé le ministre, M. Barra, sur votre chaîne, par rapport à cela. Il disait qu'il devait le faire, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. C'est pas si cette ministre-là, qui est là aujourd'hui,
merci.
A une idée par rapport à cela.
Merci. Elle a noté. Le suivant, bonjour. Oui. Allô? Allô? Ok. Il y a le suivant ou bien la suivante? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Oui, c'est monsieur.
Ça Bozambo.
Oui.
Je vais supplier madame la ministre, n'a qu'à dire au gouvernement, premier ministre, que la route, le péage de, comment on appelle ton, à Kepé là, ils n'ont qu'à faire effort. Donc, on a déjà construit. Mais, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent même pas à ouvrir cette voie et nous faire des difficultés sur le contournement là. Mais on paye le péage et on a conçu de nouveaux péages. Donc, il attend le 27 avril ou bien le 26 avril pour inaugurer avant qu'on mette en pratique. Mais les gens paient du péage. Mais il y avait des voitures. Hier, le voiture de Bouma a été gâtée sur la voie là. La voie est complètement bloquée pendant 6 heures de temps. Les gens, ils ont coloré jusqu'à fatiguer. Et je prie, madame le ministre, il n'a qu'à dire à présent que les gens de Boumaf n'a qu'à ouvrir cette voie pour nous les pauvres aussi.
Merci.
Parce que nous payons les péages.
Merci beaucoup. Merci,
bonne émission.
Merci. C'est quand même frustrant qu'on paie le péage alors qu'on vous impose une déviation vraiment éprouvante. Oui, et si?
Allô, bonjour.
Oui, et si?
Voilà, oui. Tout à l'heure, on a été coupé, mais bon. La jeune ministre de l'inclusion financière vient nous parler ce matin. Est-ce que ça voudrait dire que c'est le FNFI, là? C'est le... Ça vaut le FNFI ou c'est un autre truc?
Voilà. Et vous avez écouté l'émission
auquel, pardon?
Vous avez écouté le développement de la ministre?
Pas beaucoup, mais je sais que c'est une inclusion, c'est une microfinance, je crois, non?
Bon, vous auriez dû écouter d'abord.
D'accord, j'étais pas à côté.
Ok.
Voilà, et son régime, le régime auquel elle participe, brade nos banques publiques au profit des privés qui pullulent. Est-ce que la Constitution le permet? Elle a été ministre depuis, 5, 6, 7 ans. Est-ce qu'elle a pu déclarer ses biens? Même si les aînés refusent de le faire, les jeunes qui sont dans le gouvernement peuvent leur donner l'exemple, bon exemple, en déclarant, même s'ils refusent, ils doivent tabler pour déclarer leurs biens.
Merci.
Et puis, le péage, le surplus du péage, parce que le Ghana a supprimé le péage depuis plus d'un an. Et la TVM, tout ça là, le surplus, tout ça là. Nous serons remboursés quand? Quand est-ce qu'ils vont nous rembourser le surplus là, qu'ils perçoivent encore et pour toujours?
Ouais.
Sinoubou a accédé à la présidence, comme tous les autres, c'est-à-dire à sa façon aussi. Et puis, voilà, et... L'Afrique, il va ainsi,
merci,
quoi.
Merci, merci. Je suis plutôt surpris que Essi n'a pas parlé d'alternance aujourd'hui. Nous allons prendre le dernier auditeur. Bonjour.
Je ne sais pas si c'est le réseau ou bien j'ai été écouté. C'est M. Waris.
Ok.
Je voulais encore ajouter quelque chose à Mme la ministre. Bon, c'est toujours sur l'inclusion financière. Et surtout, nous remarquons aussi que vers la fin du mois, on remarque que les fonctionnaires font le tour des banques, si les virements ont été faits ou pas. Bon, une fois que les virements ont été faits, on remarque que tout est raclé sur le compte. Bon, qu'est-ce qui peut être à la cause? Est-ce que ce qu'on leur payait?
Bon, en tout cas, c'est pas nous qui avons coupé M. Waris, mais on va devoir s'arrêter ici parce qu'il y a un certain nombre de questions pour lesquels l'interpellé a besoin d'un minimum de temps. Madame, le premier auditeur, votre gouvernement fait pour intéresser les citoyens aux urnes?
Si vous permettez, je vais répondre de manière globale.
Okay.
Je vais commencer par l'intervention de Madame Essi, c'est ça?
Oui.
Bon, déjà, je suis ministre depuis 2017. Donc la cinquième année, jeune ministre, certes, elle parle de déclaration de biens. C'est ce que je dis, il faut s'intéresser à la vie politique et à la vie publique de son pays, la gestion de son pays, avant de parler. Et aujourd'hui, elle nous parle de déclaration de biens. Est-ce que quelqu'un refuse ou accepte de la faire? Je vous rappelle que c'est depuis le 1er mars et on a 90 jours pour la faire. Et donc c'est maintenant et que c'est une loi organique qui l'a fixée. Donc on peut pas aller plus vite que la musique de son pays, on peut pas aller plus vite que la Constitution. Chacun de nous respecte les règles qui sont édictées. Donc si aujourd'hui une loi a été votée dans notre pays pour dire que tous ceux qui rentrent en fonction doivent déclarer leurs biens et que c'est à partir du 1er mars, nous attellerons à le faire. C'est pas que les jeunes ou les pas jeunes, c'est tout le gouvernement qui le fera parce que c'est la loi et nous sommes tenus au respect de la loi. Donc effectivement, nous déclarons nos biens au même titre que tout le monde. C'est pas une question de jeunes ministre ou de pas jeune ministre, mais c'est parce que nous sommes respectueux des lois de notre République et j'espère que aussi, quand viendra le moment, tous les fonctionnaires, tous ceux qui sont assujettis à cette loi le feront. Après, concernant la question qui demande la différence entre affaires sociales, FNFI, c'est deux prérogatives différentes, c'est deux champs d'intervention différentes. Je l'ai dit, nous accompagnons les populations à pouvoir s'intégrer dans le tissu des développements économiques. L'action sociale fait du social, et je l'ai bien dit, ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts Et quand je donne l'exemple de personnes qui ont quitté 30 000 francs à 50 millions, ça montre qu'on n'est pas dans un caractère social, mais nous sommes en fait dans un creuset de développement progressif de nos populations avec des outils financiers. Oui. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que le crédit est une activité réglementée par la BCAO. Donc nous travaillons selon les règles définies par la BCAO en termes d'inclusion financière. Et c'est même d'ailleurs la raison principale pour laquelle la BCAO, à travers les commissions de l'UEMOA, publie en fait les indicateurs et les réalisations de chaque pays en matière d'inclusion financière. Donc effectivement, toutes ces actions, que ce soit développement de la base, action sociale, couverture maladie universelle, toutes les initiatives qui sont prises, vous l'avez rappelé en introduction, la part de l'État, la part du budget de l'État dans la loi de finances 2023 consacrée au social est importante. Mais vous avez des ministères, par exemple le ministère de l'Agriculture fait aussi du social envers les agriculteurs. Donc effectivement, c'est toutes ces actions mises bout à bout par les différents départements qui concourent à l'action gouvernementale. Le gouvernement n'est que un et indivisible. Et effectivement, chacun maintenant a son rôle à jouer. Et pour faire le comparatif, c'est comme si on disait, mais monsieur Sass, pourquoi vous faites votre émission et que vous avez d'autres journalistes à côté? Parce que vous êtes déjà journaliste. On a tous besoin des compétences des uns et des autres pour bâtir notre nation et pour une efficacité d'intervention. Merci. Et d'action.
Alors rapidement, il y a un auditeur a parlé des institutions de microfinance qui ont dû fermer alors que les gens ont leur épargne là-bas. Est-ce que vous êtes compétente pour rembourser les épargnants?
Déjà, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que il faut faire preuve de prudence. On avait parlé de la stratégie nationale d'inclusion financière et j'ai parlé également de la stratégie d'assainissement. Nous savons qu'il y a des microfinances qui ouvrent sans agrément et qui collectent de l'épargne chez des épargnants. Et ce que nous faisons en général, c'est que le ministère des Finances, qui est compétent en la matière, qui délivre les agréments, quand elle se rend compte qu'il y a une microfinance qui n'a pas d'agrément, un peu c'est de l'extorsion de fonds en fait, c'est de l'arnaque, puisque vous n'avez pas d'agrément pour collecter des épargnes, mais vous collectez. Quand on se retrouve dans le cas d'une microfinance illégale, c'est comme si vous avez été vous avez rencontré quelqu'un dans la rue à qui vous avez donné de votre argent. Mais quand il s'agit d'une microfinance légalement constituée avec un agrément, quand elle est en difficulté, qu'elle a un retrait d'agrément, il y a les dispositifs qui sont mis en place au niveau de le ministère des Finances pour justement enclencher les mécanismes de restitution des fonds aux différents épargnants. Donc ce que je fais, ce que je pourrais dire, j'invite en fait les personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure pour ceux qui ont interjeté appel au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les institutions sont là. Donc autant mieux se rapprocher des institutions pour pouvoir savoir quelle est la démarche à faire en donnant le nom de la microfinance en question, les éléments constitutifs, pour avoir les réponses. Mais c'est ce que je dis souvent, il faut aller à la source de l'information, il faut faire toutes les démarches ensuite avant d'aller.
On va aller très rapidement. Un auditeur s'est interrogé sur les cibles. Hein. Est-ce que vous assurez que les cibles sont effectivement celles qui bénéficient de ces différents efforts du gouvernement?
Nous nous assurons que les cibles en fait qui vers lesquelles nous allons sont celles qui sont les plus adaptées. On l'a parlé tout à l'heure avec les transferts monétaires quand vous parlez de l'environnement où je disais effectivement il n'y a pas beaucoup de publicité médiatique autour mais un travail de terrain d'identification des personnes, d'approche avec l'aide des chefs cantons, des autorités locales, le gongonnage pour passer l'information. Au niveau du FNFI également, c'est que nous les cibles elles sont multi-cibles, on va de 30 000 à 50 millions. Donc en fonction de votre capacité. Et c'est pas le FNFI même qui fait les crédits, c'est les institutions de microfinance partenaires qui arrivent à identifier le bénéficiaire. Et c'est comme vous quand vous allez à la banque, si vous dites aujourd'hui je veux aller faire un prêt pour construire une maison, en fonction du montant que vous allez demander, la banque saura si vous avez la capacité d'être éligible au montant ou pas. Donc c'est la même chose qui se fait. Donc aujourd'hui, tous les programmes que l'État met en place, on essaie de mettre en place un ciblage adapté. Et évidemment, si on dit un crédit de 30 000 francs, la personne qui viendra pour le crédit de 30 000 francs, on connaît sa capacité de pouvoir faire quelque chose avec et générer une activité de revenu. Celui qui va demander 50 millions aussi, on connaît sa capacité. Après, l'autre point, c'est...
On va finir avec le péage d'AKP, avec ce contournement qui est imposé aux gens, avec des pannes qui compliquent déjà la situation. Bon, l'auditeur a souhaité que vous alliez plaider auprès du gouvernement pour l'ouverture très imminente de
PED AKP. Le plaidoyer sera bien entendu transmis comme tout l'ensemble de mes collègues quand nous rencontrons ou quand nous sommes interpellés par des Togolais. Le plaidoyer sera fait. Mais je voudrais juste que les gens comprennent quelque chose. C'est que pour la réalisation des ouvrages, il y a des aspects techniques. Et ce n'est pas... Eux le voient construit en se disant « c'est fini ». ils le voient construit devant eux en se disant c'est fini. Mais il faut que l'État s'assure du respect de tous les aspects techniques qui sont liés au cahier des charges avant de donner le OK, parce que je vais juste leur donner un exemple. Si on ne prend pas cette prudence en s'assurant que tous les aspects techniques sont finalisés, on pourra très bien dire, bon, on l'ouvre, mais si demain il y a un problème technique qui survient ou un défaut, bah, le maître d'ouvrage ou celui qui a fait la construction pourra dire, ah ben non, moi j'ai respecté.
Je comprends, mais dans ce cas, demander à l'entreprise d'entretenir le contournement, la déviation pour que le
plaidoyer sera fait, mais c'est juste qu'il faut qu'on c'est juste pour situer la population, que si il voit quelque chose de réalisé, c'est que nous on doit s'assurer en tant que commanditaire gouvernement.
Merci Madame Massama Esso. Et si vous Madame Massama Esso assis, voilà. Hein, de assis à ici, c'est pas toujours la même chose. Vous préparez pour votre conclusion le temps que je revienne aux confrères. Pour recueillir leur carton de fin d'émission. Magloire,
je n'ai pas de carton particulièrement, mais encore une fois, je me réjouis donc de la décision prise par la Cour suprême en ce qui concerne le confrère Liberté. Au même moment, je me pose des questions. Vous savez que dans un passé récent, il y a eu le cas Symphonie Yves Gallet. Mm-hmm. Et or, on le dit, les institutions de la République, on doit travailler à ce que ces institutions-là soient fortes. C'est vrai, tout ce qui se joue, ça exprime la dynamique ou le dynamisme de la démocratie togolaise. Mais au même moment, je me pose la question de savoir, mais si à chaque fois la HAC prend une décision et que celui-là qui a la présence d'esprit d'aller interjeter appel se voit finalement, comment ça se dit, rétabli dans ses droits, mais ça voudrait dire qu'il y a un problème. Et n'oublions pas que c'est ce dossier de sanctions qui a conduit à la démission d'un membre de la HAC. Et donc tout ça, ça m'amène à me poser des questions. Mais encore une fois, c'est la démocratie et puis on s'en félicite. Dit,
nous sommes en allant, n'est-ce pas? Michel Tadjian?
Non, je n'ai pas de carton. Nous avons pu constater, c'est par rapport à la dernière intervention de Madame le ministre, la route du contournement, je pense que quand cette route-là a été faite, on a attendu des mois et des mois où les gens passaient par cette route-là. Il y a eu des décès énormes sur cette voie-là, alors que au même moment, le gouvernement disait, en tout cas, ceux qui avaient en charge donc la construction disaient que ce n'était pas encore fini. Et les gens commençaient déjà à utiliser cette voie-là avec des décès, des accidents qu'on a enregistrés avant l'ouverture officielle mm-hmm. de cette route-là. Au même moment, je voulais aussi que, par rapport à cette voie dont on parle vers ATP, oui. voir dans quelle mesure libérer donc cette voie-là pour éviter des accidents éventuels, parce mm-hmm. que les déviations, là, ce n'est pas aussi aisé. Hein. Ce n'est pas aussi aisé. Il faut quand même trouver une solution.
Merci. Et l'homme?
Non, je n'ai pas de carton. Bonne journée à toutes et à tous.
Merci, madame. Je ne vous demande pas un carton, mais vous avez une minute pour votre conclusion.
Je voudrais juste conclure en disant que une fois de plus, on se réjouit de l'intérêt que portent les Togolais aux différentes actions de l'État et du gouvernement. Ça montre que, en fait, ils sont impliqués à nos côtés au développement de notre pays. Et juste finir en disant que je voudrais juste souhaiter une très bonne fin de journée à tous et à tous et un très bon appétit.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Le Club La Presse nous donne à nous tous rendez-vous demain vendredi pour terminer cette semaine en beauté. Si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Je sais compter sur vous demain donc.